Bonsoir à tous. 20 ans après, ça fait un peu les trois mousquetaires, mais vous êtes quatre. C'est bien, ça va aller. On va par contre peut-être faire un pas en avant, parce que sinon vous allez tous avoir une drôle de tête sur les photos. Je crois que l'éclairage est mieux si on se met plus près du bord.
Je crois qu'on a la moitié
des visages dans l'ombre. Et un peu de zébrure aussi.
Ou alors on s'avance,
vraiment au bord.
Ou alors on se recule vraiment.
Voilà les photographies. Guidez-nous, là, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, là.
Moi, je vous demande de descendre et de vous appuyer contre le...
Ah, on va carrément s'asseoir.
Ah, mais c'est parfait.
Voilà. Voilà, on a tous vu que vous pouviez monter des escaliers. Maintenant, on va les descendre. Je pense que vous aurez tous meilleure mine. Alors, je vais poser une première question à la cantonade. J'aimerais avoir une réponse de chacun et chacune d'entre vous. Quand vous avez entendu, oui, de la salle, du coup, l'annonce de la récompense pour le prix d'interprétation pour Émilie, et ensuite l'annonce de la Palme d'Or, qu'est-ce qui vous est passé par la tête? C'est quoi la première chose à laquelle vous avez pensé?
Moi, quand j'y pense aujourd'hui et que je revois les images, j'ai un peu honte parce que j'ai embrassé personne.
Il n'est pas trop tard.
Personne,
hein.
Donc
il
voilà,
pas
je voulais
dire
merci.
Oh, merci. Les applaudissements étaient plus fournis, je pense.
Voilà. Parce que j'ai fait tellement saisie que je ne les ai pas embrassés. J'étais complètement abasourdie et j'ai surtout pensé à essayer de ne pas tomber, de ne pas pleurer, de ne pas perdre ma robe. J'ai réussi à ne pas me dénuder, à ne pas tomber, mais j'ai pleuré comme une madeleine. Voilà, c'est comme ça.
Moi ça a été. Moi j'ai pensé à rien, sincèrement. Ça a été un blackout, comme ça. Ça a été un choc. En fait, moi je me souviens que j'étais surtout content pour eux, quoi, à ce moment-là. Parce que j'avais déjà été content pour elles, puis à ce moment-là j'étais content pour eux. Et ça a été. Ça a été vraiment. Je dis, ah ouais, putain, je peux. Voilà.
J'ai participé à ça.
Oui, c'est vrai.
Et moi, je me souviens d'Emilie qui monte sur la scène. On la voit de dos, comme dans le film. Sauf qu'elle n'a pas la tenue de survêtement de rouge et noir. Mais elle avait une très belle robe et elle était déjà une grande actrice. Elle n'était plus Rosetta. Je me souviens d'Emilie aussi, qui, avec sa robe, et qui, près de Johnny Hallyday, ouais. Qui lui a remis le prix, et elle dit, c'est difficile, et puis elle part, elle pleure, voilà. Et Johnny Hallyday lui prend son mouchoir, et lui tend.
Et gentleman.
Ça, c'était Johnny. Et non, Emilie, j'ai été très ému, parce que finalement, c'est parce qu'une de ses tantes, comme elle raconte, lui a dit de nous envoyer une petite lettre disant qu'elle voulait jouer dans un film. Et c'est pour ça que finalement, on l'a choisie. Donc cette tante, on peut la remercier. Je crois qu'Emilie la remercie aussi.
Elle s'appelle Nathalie.
Voilà, Nathalie. Voilà. Et Nathalie, donc on ne remerciera jamais assez Nathalie.
Je voudrais juste préciser un petit truc, c'est que avant que les frères aient la Palme d'Or, moi, pendant ce temps-là, je suis en coulisses et je suis avec Natacha Régnier, qui s'occupe de moi, qui me prend sous son aile, que Fabrizio et moi, on avait vu La vie des rêves des anges quasiment en même temps pendant le tournage de Rosetta et qu'on s'était dit, oh là là, c'est ça qu'il faut faire, c'est magnifique. Voilà. Et que bizarrement, j'attends les frères. Parce qu'en fait, on aurait très bien pu n'avoir que ce prix pour le film. Quand on a un prix à Cannes, quand on en a un prix d'interprétation, c'est déjà très bien pour un film. Mais je ne sais pas pourquoi, moi, je savais que les frères allaient monter sur scène, mais j'espérais juste qu'ils montent le plus tard possible, mais j'étais sûre qu'ils monteraient sur la scène et qu'ils auraient leur Palme d'Or. Voilà. Je vous attendais.
C'est un peu grâce à toi.
C'est comme ça.
Alors, c'est vrai que c'est un peu grâce à elle, bien sûr, puisque vous avez vraiment axé tout le film sur elle et sur le personnage de Rosetta. Vous avez reçu une petite lettre pour dire « j'aimerais bien vous rencontrer », vous l'avez rencontrée. Si je ne m'abuse, elle n'avait pas du tout encore le look, l'apparence du personnage. Hein ? Parce que ce n'est pas pour rien que je parlais du look des années 90.
Non, elle était très différente.
Très, très différente.
Et je crois, Brigitte, sa maman, est là, je crois. Hein, elle est là. Je ne sais pas qui l'avait accompagné, Émilie, c'était toi, hein, voilà. Et alors, Émilie était venue avec des escarpins, enfin, une série de choses maquillées, etc. Et au fur et à mesure qu'on travaillait à se déshabiller, et on lui enlevait, on dit pieds nus maintenant, si tu veux bien, si tu ris, etc. Et elle sort de la séance de travail, comme ça, un peu en transpiration, le maquillage qui est cool, et on entend sa mère qui dit, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait?
Moi, je me souviens des rumeurs pendant que le tournage était en cours, où on entendait dire, tu te rends compte? Ils lui ont demandé de se laisser pousser les sourcils, et ça nous semblait un truc tellement absolument improbable et impossible.
Ah bon, j'ai vu ça, ça.
Oui, oui.
Vous savez que dans les années 90, oui, les sourcils...
On avait des sourcils très minimalistes à cette époque-là.
Heureusement, ils m'ont arrêté à temps et j'ai pu les récupérer. Voilà, merci.
Est-ce qu'il y a vraiment un avant et un après? Est-ce que c'est plus facile, plus difficile après pour une Palme d'Or, après un prix d'interprétation, après un film que celui-là?
Bah, le prix d'interprétation, ça, c'est Émilie qui doit répondre.
Bien sûr.
C'est difficile. Hein.
Non, mais évidemment, c'est beaucoup plus facile dans la mesure où, où on a le choix. Et en tout cas, si on ne se précipite pas, ça permet de faire ce qu'on aime. Mm-hmm. Enfin, en tout cas, j'ai la... C'est pas une sensation, c'est un fait. Depuis 20 ans, je fais ce que j'aime. Si je pouvais prolonger d'encore 20 ans le bail, je signe tout de suite.
On signe aussi, pas de souci.
Voilà. Et puis oui, même dans le paysage cinématographique, et là, les frères, enfin, moi, j'ai des souvenirs où j'avais l'impression de ne plus être comédienne, mais d'être une femme politique après Affreux Rosetta, et qui a eu vraiment des mises en place. Même si le cinéma belge commençait déjà à rayonner depuis un moment à l'international, vraiment, Rosetta, la Palme d'Or, ça a quand même permis une véritable assise et une véritable mise en place des projets. Il n'est pas que pour nous, là, après, il est pour le cinéma belge en général, je trouve.
Oui, il y a eu un avant et un après, clairement. Je me souviens du plan Rosetta, d'ailleurs. C'était Loretto Kölitz qui avait fait ça, je me souviens bien. Donc il y a eu vraiment... Moi, je me souviens... En fait, c'est marrant parce que j'avais des choses que j'avais effacées de ma mémoire, sans le vouloir. Et je me souviens récemment de notre arrivée à l'aéroport, à Zaventem. C'était comme si les Diables Rouges avaient gagné le mondial, quoi. C'était en fait tout l'arrivée qui était remplie de monde, avec des gens avec des drapeaux. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait des gens avec des drapeaux. Et c'était hallucinant, c'était le chaos. Et c'est à ce moment-là, moi seulement, que j'ai compris l'impact. L'impact de ce qui s'était passé, quoi, non?
C'est italien.
Non, mais ça a été, voilà.
C'est
français.
Non, mais c'est vrai.
Ouais, tu veux dire quelque chose, en fait?
Non, très bien.
Mais moi, je me demandais aussi, par rapport à l'avant et après, c'est vrai que c'est des choses que j'ai pu lire, entre autres, je sais que Jaco Van Drommel l'avait exprimé, il avait dit, mais après un gros succès, on s'attend à ce que ce soit plus facile, et en fait, les portes se referment parfois, parce qu'on nous dit, oui, mais vous avez déjà eu, donc ça va, ça tombe tout seul, vous n'avez plus besoin d'aide, plus besoin qu'on vous soutienne, plus besoin d'argent, ça va tout seul, et donc je sais que lui avait une période très difficile pour pouvoir financer ces projets suivants. Est-ce que vous avez ressenti une poussée d'aile dans le dos ou justement il a fallu montrer qu'il y avait encore pas mal de choses sous le coude et sous le pied qui pouvaient arriver?
Non, c'est-à-dire que je pense que Luc et moi, on était contents pour le film, contents pour les comédiens, contents pour l'équipe technique, les amis qui nous avaient accompagnés, et puis on était contents pour nous aussi. Donc c'est bien. Et puis il faut s'en mettre au boulot après. Donc refaire un scénario et reconvaincre les gens. Et c'est vrai que ce n'est pas parce que vous avez eu les récompenses qu'on a Palme d'Or qu'automatiquement la suite va tomber. Mais allez, on ne peut pas dire non plus que ça ne nous a pas aidé. A priori, ça nous a aidé.
Oui,
ça nous a aidé.
Mais il
a quand même fallu qu'on continue à travailler parce que ce n'est pas un abonnement.
Oui.
Donc,
Et vous, on se demande parfois, parce que vous faites partie de la shortlist des réalisateurs les plus primés à Cannes. Vous faites partie des Happy Eight qui ont eu deux Palmes d'Or. Bravo d'ailleurs, félicitations. Et vous continuez encore ici avec le jeune Ahmed à emporter les succès et les retours extrêmement positifs. Donc des idées, il en reste toujours et elles sont de belles valeurs. Elle
n'avait
pas l'air d'aimer les
compliments. Non, mais les compliments, c'est bien, mais... Oui, c'est bien, si, si.
Oui, il y a 20 ans, hein, il y a 20 ans, il faut... Non, mais moi, je me souviens, par exemple, de quelqu'un qui n'est plus avec nous, et c'est Eliane Dubois, qui dirigeait Cinéart. Et ça, c'était une amie, et je me souviens qu'on est allé chez elle, avec l'équipe, une partie de l'équipe de Cinéart, notre distributeur, et on a fait une belle photo, que j'ai à la maison. Et ça, je me souviens de ça, c'est mon souvenir de ce moment-là, de la journée qui a suivi notre retour, donc du soir du retour. Mm-hmm. Voilà. Ça, c'est un beau moment, c'est quand même les amis qui comptent, je crois, aussi. Hein. C'est là qu'on sent que... Et d'ailleurs, qui comptent après, quand ça va un peu moins bien aussi.
Voilà.
Heureusement. Ah oui.
Pour revenir sur vous, Olivier Dequesne, vous avez tourné votre premier film qui n'était pas n'importe quoi, puisque vous êtes retrouvé dans un projet où tout à coup, 100% quasiment du film était sur vous. C'était une première expérience de tournage assez intense.
C'est rare, en fait, ce genre de film où, oui, il n'y avait pas un plan, où il n'y avait pas Rosetta. Et effectivement, d'enchaîner ensuite, de passer à d'autres choses, au-delà du principe de ce personnage qui est de tous les plans, les frères, ils ont vraiment leur façon de travailler qui est bien à eux. Mais après, voilà, c'est comme ça qu'on apprend, qu'on découvre aussi d'autres façons de travailler. Et moi, j'avais envie d'apprendre, j'avais envie de jouer. Je ne savais pas si j'avais envie de jouer au cinéma, j'avais envie de jouer et de me déguiser, de prétendre être quelqu'un d'autre. Et est-ce que le faire au cinéma, ça allait me plaire? J'ai essayé avec les frères, c'était beaucoup moins glamour que ce que j'avais imaginé. La rencontre avec Rosetta, mais en fait, ça m'a plu. Plus que plus, et puis voilà, les projets se suivent, se ressemblent pas, et comme une palme d'or pourrait donner l'impression que ça aide ou que ça n'aide pas, c'est toujours pareil, chaque nouveau projet, c'est un redépart à zéro, on remet les choses au début, et on a juste envie de bien faire les choses, d'être à la hauteur, de faire en sorte que ça aboutisse. Et
en fait, voilà, ok. En même temps, c'est petit, hein, tout va bien. Oui, je pense que vous m'entendez même sans micro.
Et enfin, voilà, il y a un moment donné où rien n'est jamais acquis, mm-hmm. et où il faut sans cesse recommencer à zéro. Et on peut se dire que c'est super. Voilà, on a un très beau souvenir dans la tête. On est très content au moment où on vit ce qu'on vit avec un film. Mais si on veut avancer, on peut pas.
On est obligé de les laisser derrière.
Bah oui. On garde avec soi, mais on avance. Quoi.
Alors, vous aviez 17 ans au moment du tournage. Vous auriez aimé qu'on vous dise quoi à cette époque, en regardant en arrière aujourd'hui, voilà, si vous retournez sur la jeune fille que vous étiez à 17 ans et que vous vous retrouvez dans cette aventure-là, vous auriez aimé qu'on vous dise quoi?
Oh, mais moi, j'ai rien à. Il n'y a pas de conditionnel, c'est fait. Je suis vraiment dans le moment présent, je suis bien trop dans le moment présent pour avoir ce genre de pensée. Je suis tellement heureuse aujourd'hui que voilà, je suis toujours pleine de gratitude. Chaque jour, j'ai que de la gratitude pour la vie que je mène et d'amour pour les gens que j'aime et les moments que je partage. Et j'ai qu'une envie, c'est que ça continue. Mais c'est vrai que pour moi, il n'y a qu'en voiture qu'on regarde derrière. Sinon, dans la vie, hop, on va vers l'avant. Et c'est comme ça que ça marche. Quoi.
Voilà, c'est avancer. Je pense que c'est une belle philosophie, une bonne manière de voir les choses. On va peut-être en rester sur ces excellentes paroles. On va regarder devant, exactement. De toute façon, derrière, il ne se passe rien. Merci.
Merci.
Oui, et projecteur, comme bien entendu, mais ce n'est pas par là qu'il faut regarder. Pour ceux qui viendraient aujourd'hui pour rester au cinéma, il ne faut pas regarder le projecteur, en fait. Merci, Luc et Jean-Pierre Verdaine. Merci pour votre travail.